L'hebdo politique.
Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Benoît Gâtinais, le maire d'Aizier, vice-président du département en charge des collèges et de l'enseignement supérieur, entre autres, président de l'intercom Roumois-Seine et conseiller départemental du canton de Bourrachard.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.
Monsieur Gâtinais, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 49 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous avez été diplômé de l'École nationale supérieure des officiers de la marine marchande, située à Nantes, je crois, et vous êtes toujours sur le ponton de cette profession actuellement. Politiquement proche du MoDem, vous êtes désormais affilié à la famille de l'UDI. On va découvrir votre portrait dans quelques instants.
L'hebdo politique sur Sensation Normandie.
Alors tout est vrai dans ce que j'ai cité, vous êtes toujours sur le ponton puisqu'on explique un peu à nos auditeurs, vous êtes dans la marine marchande. En quoi consiste précisément votre profession ?
Je suis officier de marine marchande et je travaille sur les remorqueurs dans la société qui s'appelle Boluda et qui opère dans le port du Havre.
D'accord.
Notre travail consiste à assister la rentrée et la sortie des bateaux dans le port du Havre, notamment les pétroliers, les porte-conteneurs, les plus gros bateaux du monde.
Vous étiez prédisposé à cette profession de par peut-être votre situation géographique de naissance ou de villégiature?
J'habite Aizier, donc on est au bord, oui, de la Seine, évidemment. Ouais. Et puis j'avais un papa, surtout, qui était officier de marine marchande et j'ai suivi le chemin paternel.
Donc on voit passer souvent les bateaux.
Effectivement, on les voit passer.
Bien, politique, pour démarrer cet entretien avec un peu plus de sérieux et peut-être de choses qui fâchent. Vous ne vous êtes pas mis en marche. Pourquoi ?
J'avais pas de raison de me mettre en marche. Je suis, comme vous le rappeliez, issu de la famille UDF, donc des centristes. Et je me sens très bien dans cette famille, aux côtés d'Hervé Morin, notamment.
Il y a eu un grand rassemblement là, fin décembre, je crois.
Oui, c'est ça.
Pour essayer de voir un peu sur quelle ligne politique on va se diriger. Vous êtes un pro-Morin ?
Je suis un pro-Morin,
d'accord,
effectivement.
Donc avec une nouvelle famille, les centristes ?
Avec une nouvelle famille, les centristes, qui a vocation à regarder de près comment le travail et les propositions de ce nouveau gouvernement, mais effectivement toujours centriste.
D'accord. Donc vous avez acquiescé plus ou moins du regard le départ de votre ancien président, Benoît Lecornu. Vous avez trouvé ce mouvement logique, opportuniste, ouais, ou pas ?
Non, Sébastien Lecornu, je connais bien puisque je travaille avec lui depuis maintenant, ouais, 3 ans, et qu'un homme politique brillant qui a fait un travail important pour redresser les finances de notre département. Il a décidé d'apporter sa contribution et son expérience au sein de ce nouveau gouvernement. Il porte des valeurs que je porte aussi et je m'en réjouis.
D'accord. Alors, entre la bûche et le foie gras, la presse régionale et la presse locale avaient sans doute besoin de faire les gros titres. On a repris en tout cas une information sortie sur la presse parisienne. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que c'est trop tard ou que c'est trop tôt ou qu'on se met martel en tête trop vite si M. Lecornu est le porte-drapeau justement du mouvement En Marche pour les régionales face à Hervé Morin ? On vend du papier là pour l'instant ?
Oui, je pense qu'on vend du papier. Les taux, laissons la région faire son travail. Le mandat n'est même pas à la moitié. Le président Morin s'en occupe très bien. Et je pense qu'on n'est pas au temps de l'élection.
D'accord.
Régionale.
Ok. La communauté de communes Roumois-Seine est âgée d'un peu plus d'un an.
Oui,
pile poil au niveau du calendrier. Après la fusion entre Roumois-Nord, etc., Grand-Bourterouls, d'Anfreville et Quilleboeuf, est-ce que la fusion est vraiment bien digérée ?
Non, elle ne peut pas être digérée au bout d'un an. C'est un gros travail, comme vous le rappeliez, qui rassemble 4 anciennes entités. Et si on veut bien rajouter le pays du Roumois, oui, c'est 5 entités qui ont été rassemblées au cours de cette fusion. Et le travail reste important. Nous avons eu une année décisive qui nous a permis de commencer l'harmonisation de nos compétences et l'harmonisation de notre fiscalité, de nos tarifs, dans les différentes compétences qu'on peut exercer. Et il y a encore, dans le courant de cette année 2018, un gros travail à réaliser à la fois avec les élus et l'ensemble de nos partenaires.
La dette de l'ex-CDC Bourterouls, plus d'1 million d'euros.
Je dirais 1,5 million.
Un million et demi d'euros, donc ça pique un peu. Est-ce que c'est une pierre dans le sac à dos qui empêche de marcher encore actuellement ? On marche moins vite.
On marche forcément moins vite quand on part avec une dette. Maintenant, mon rôle, c'est de rassembler et de faire en sorte que nous puissions dépasser cette pierre dans le sac à dos et faire en sorte que cette intercommunalité soit bien au service de la population et rendre les services que la population attend.
Les rapports avec le pays Riel-Estuaire, ça se passe comment ?
On se connaît depuis longtemps. Évidemment,
un mariage raté ?
Un mariage raté, on doit bien l'admettre, naturellement.
Donc un regret pour vous personnellement aussi ?
Un regret pour les élus, moi je pense que j'ai passé le temps des regrets, on en est plutôt au temps de la construction de Roumoisène. Je pense que Roumoisène est une belle entité de 52 000 habitants qui se situe en trait d'union entre deux grosses agglomérations que sont l'agglomération havraise et l'agglomération rouennaise, avec des atouts économiques importants, de développement économique important. Elle est traversée, je le rappelle, par l'autoroute A13, l'autoroute A131 et l'autoroute A28, ce qui lui donne des atouts importants dans ce paysage régional. Et donc, moi, j'en suis maintenant à la construction. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Je porte le projet et je veux que Roumoisène soit une réussite et fasse le travail que l'on attend.
Certaines communes des anciens territoires, des nouveaux, etc., sont encore un tout petit peu à l'arrêt au niveau des autoroutes de la communication, on parle du numérique, le très haut débit, promesse de plusieurs présidents successifs de notre département. Ça a l'air d'avancer un peu plus vite actuellement, avec notamment heures numériques, etc. Sur l'ancienne CDC de Quillebeuf, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que ça soit véritablement d'ici 2019-2020 ? Est-ce que vous avez une date butoir pour que tout le monde soit couvert ? On va pas dire à 100%, mais au moins à 90%, quoi.
Oui, on a même une ambition qui est bien plus grande que ça, puisque à l'échelle de la nouvelle communauté de communes Roumoisène, nous avons une prévision de déploiement de la fibre à hauteur de du haut débit, plus exactement, à hauteur de 98%. C'est 83 à 85% des foyers qui seront alimentés en fibre, donc directement dans les maisons. Et le calendrier est celui qui est à appliquer sur l'ensemble du département de l'Eure. C'est celui qui doit nous permettre d'obtenir ces pourcentages-là à échéance de 2020. Bien sûr, il y a des contraintes techniques qu'on voit apparaître. Nous allons nous employer à essayer de les dépasser. J'entends par là les difficultés de recrutement. Nous allons essayer d'accompagner ou de participer avec leur Normandie numérique à proposer des emplois. On a tous des emplois sur nos territoires à pourvoir. Et donc, la matière première, évidemment, là, si on a pas la matière première, ça nous retardera forcément.
C'est une question que j'avais posée au sénateur Hervé Moret, qui donc, a toujours un pied dans l'institution Normandie hors numérique. En lui posant la question, c'est une création d'un nouveau métier avec des formations de personnes qui ne sont pas forcément qualifiées. Est-ce que ça ne va pas retarder justement la mise en place du THD, comme on l'appelle ?
À nous de regarder tous les leviers qui sont possibles à mettre en place pour justement ne pas perdre de temps. Il est important que nous ne perdions pas de temps. La population attend ce service, ce déploiement avec impatience depuis de nombreuses années. De notre côté, les élus, on a aussi un travail à faire puisque il y a un certain nombre de documents administratifs qui permettent d'engager les travaux. À nous aussi de faire en sorte que ces documents administratifs, et je pense en l'occurrence à la DICT, soient débloquer le plus facilement possible par nos élus qui, dans chaque territoire, accordent ou pas ces DCT, de façon à ce que, justement, on puisse, si on perd du temps d'un côté, on puisse essayer d'en récupérer un petit peu.
Est-ce qu'on cherche un profil précis ? Est-ce que Pôle emploi, les missions locales se mettent aussi également les mains dans le cambouis, entre guillemets, pour trouver un profil type du personnel qu'on rechercherait ? Pas forcément qualifié, mais ayant peut-être sans doute quelques connaissances dans le domaine, des jeunes, des moins jeunes, des plus de 50 ans.
Ouais, moi je crois que ça s'adresse à n'importe quelle personne en recherche d'emploi.
Et les appels d'offres, entre guillemets, qui ont été lancés par Pôle emploi ou pas du tout pour le moment ?
À ma connaissance, non. Je pense qu'ils sont en train de faire un inventaire pour essayer de voir quel type de personne pourrait répondre à ce type de besoin. Mais on peut espérer qu'on trouve des gens.
Ça peut créer de l'emploi sur votre secteur, par exemple ?
Ah, bah j'espère. Je vous dis, nous, on va mettre tout en œuvre pour essayer d'identifier les potentiels demandeurs d'emploi intéressés par ce type de métier.
Une question un peu plus apaisé sur le patrimoine de chaque commune, de chaque territoire, comme dans nombreuses communes de la région, même en France. Vous misez sur ce qu'on appelle le tourisme historique, médiéval, voire religieux, à l'image de la chapelle Saint-Thomas, qui est du 12e, c'est ça ? Près du parc Viking Aventure. Est-ce que ça aussi, c'est créer de l'avenir avec le passé ? C'est maintenant une porte obligée ? C'est ce qu'il faut faire ?
La France développe le tourisme, est un beau pays, développe le tourisme, et donc il n'y a pas de raison que nos régions et nos territoires ne s'inscrivent pas dans ce développement touristique, qui est aussi du développement économique, puisqu'il y a d'énormes retombées autour de ce développement touristique, et nous souhaitons nous inscrire dans cette politique, et nous avons lancé très récemment un appel d'offres pour retenir un bureau d'études qui nous accompagnera afin de définir la stratégie touristique à mettre en œuvre sur ce territoire qui est je le rappelle, je l'ai dit, est situé entre deux agglomérations, mais donc est donc très étendu et donc qui relève à beaucoup d'atouts touristiques.
C'est quoi la plus-value historique ou touristique de votre secteur ?
Bah, vous avez le Marais Vernier qui est labellisé Ramsar. Vous avez, vous l'avez dit, la chapelle Saint-Thomas. Le Moulin Amour fait partie des beaux patrimoines que l'on recèle. Et je pourrais parler aussi du Moulin d'Auville, du musée du Sabotier à La Haye-de-Routot, la maison du Lin à Routot, autant d'éléments qui s'inscrivent plus globalement dans une démarche touristique. Et je n'ai pas parlé, mais il y a la Seine à vélo qui est aussi un projet départemental et qui va au-delà du département puisque c'est un projet qui concerne l'axe Seine dans sa globalité. Et nous avons profité de ces politiques de développement du tourisme, notamment autour de la Seine à vélo.
Puis un joli point de vue pour l'Armada, si elle passe par...
Elle passe forcément par chez nous.
Par chez vous, obligatoirement. Pour clôturer sur ce sujet patrimoine, est-ce que maintenant les élus ont pris conscience qu'il fallait s'occuper des vieilles pierres ? C'est ce qu'on ne faisait pas autrefois ?
Ouais, je crois que ça fait déjà plusieurs années que nos élus ont un certain nombre de projets concernant la restauration de notre patrimoine, que ce soit de vieilles pierres ou autres. Notamment, comme vous le disiez, on l'a démontré, nous, à Aizier, autour de la chapelle Saint-Thomas.
Patrimoine religieux, en fait.
Patrimoine religieux, oui.
Il y a un tourisme d'autant plus religieux.
Parfois, mais patrimoine architectural aussi, avec la route des Chaumières, dans lequel, qui traverse notre territoire.
Le Lin ?
Le Lin, si. Autant de... Le moulin Auville, le moulin Amour sont autant de patrimoines qui ne sont pas religieux et pour autant avec qui ont un grand intérêt.
On passe à la deuxième partie de cette émission.
L'hebdo politique.
La suite de cette hebdo politique où je reçois le maire d'Aizier, Benoît Gâtinais. Vous avez profité des vœux pour assurer des travaux de restructuration qui seront menés prochainement au collège de Routot, 2020. Par le département. L'établissement ne fermera pas. Est-ce que c'est un vœu pieux ou c'est une promesse électorale ?
C'est une promesse électorale et c'est une promesse électorale qui sera tenue. À la fois, nous allons construire un nouveau collège à Bourneville qui va rassembler 800 élèves. Et je m'étais engagé à ce que ça ne mette pas en difficulté l'extension prévue sur le collège de Routot. Et donc, c'est pour ça qu'à l'occasion des vœux, j'ai eu l'occasion de le rappeler. C'est plus de 4,5 millions qui vont être consacrés à ce collège du Roumois. C'est une extension importante. Par contre, l'ouverture est plutôt prévue en 2022.
D'accord. Ok. On construit beaucoup, en tout cas, dans votre secteur, notamment sur votre domaine de compétences. Ça ne vous a pas empêché d'être interpellé récemment par votre presse interposée, par des familles de Quillebeuf-sur-Seine, suite à la suppression de certains services liés à l'enfance et à la jeunesse, et à des moyens de transport. Ça vous a affecté ? Vous avez laissé passer l'orage ?
Non, je vais recevoir ces familles très prochainement pour continuer à travailler ensemble. Et effectivement, il faut qu'on leur explique bien que...
C'est de la pédagogie.
La pédagogie, faire preuve de pédagogie, parce que quand on doit, je vous le disais en préambule, harmoniser un certain nombre de compétences, on est obligé forcément sur un territoire plus grand d'avoir les mêmes services. Et donc, y a des services qu'on améliore et puis il y a des services qu'on est obligé de diminuer Et en l'occurrence, c'est vrai que sur cette partie-là, la communauté de communes de Quibeuf-sur-Seine avait fait une démarche importante, ce qui n'était pas le cas sur d'autres intercommunalités. Mmh. Et la maîtrise des coûts nous amène à devoir rééquilibrer les services. Alors parfois, on gagne un peu et parfois, on perd un peu.
Il y a un autre investissement assez conséquent, c'est 15 millions d'euros, je crois, du conseil départemental pour le nouveau collège de la Saussaie, qui pourrait accueillir 600 élèves 2021, cette fois-ci, la rentrée. Est-ce que c'est nécessaire également, ce nouvel investissement, toujours
Ce nouvel investissement, il fait partie d'un plan plus global.
On a l'impression que ça pousse beaucoup dans ce secteur.
En fait, si ça pousse beaucoup dans le secteur, c'est parce que c'est aussi un secteur qui est en forte démographie, tout simplement. Et ce collège s'inscrit dans le plan départemental d'investissement dans nos collèges. Hein, je rappelle, 172 millions que le département consacre à la reconstruction de 11 collèges et à la réhabilitation, l'extension de 5 établissements, dont celui du Roumois, le collège du Roumois. Et pour revenir à la Saussaie, c'est un collège qui aujourd'hui a une capacité d'accueil de 600 élèves et qui reçoit 750 élèves. Donc vous comprenez bien que c'est pas qui en plus est vétuste et donc qui nécessite une reconstruction.
Et celui de Bourneville avec son gymnase, ça c'est également un chantier qui vous tient à cœur. Vous êtes attelé depuis plusieurs mois, si ce n'est plus. Ça a été confirmé par le département. Les premiers élèves également seront dans cette rentrée 2021 qui risque d'être une belle rentrée.
C'est une belle rentrée pour l'ensemble du département, puisqu'il y a un certain nombre de programmes qui émergeront à cette date, à cette échéance. Et effectivement, dont Bourneville, qui va permettre à la fois de diminuer les temps de transport scolaire pour avoir quelque chose de plus en dessous de 30 minutes pour l'ensemble des élèves, et qui va permettre aussi à ce secteur qui n'avait jusqu'alors pas d'équipement sportif d'être doté d'un gymnase. Et c'était une attente forte aussi de la population.
Le chantier, c'est 2019, ça va démarrer assez tôt.
2019.
Ça a obligé peut-être à faire grincer des dents au niveau de la revisite, entre guillemets, de la carte scolaire, etc., entre Routeau, Montfort, etc.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des grincements de dents à attendre de ce côté-là.
Collège à Montfort aussi.
Il y a un collège à Montfort. Il est aussi à saturation. Donc, il y a besoin. Il n'y a pas de possibilité d'extension à Montfort, puisqu'il est coincé entre la route départementale et la RIL. Et donc, une partie des collégiens de Montfort pourront aller à Bourneville. Et les distances sont faibles. Donc, ça pose aucun
problème. Bourneville est un tout petit peu, j'irais même beaucoup, au cœur de l'actualité actuellement, en tout cas sur votre secteur. C'est un nouvel échangeur en projet, une zone d'activité entre la 28 et la 131, un nouveau collège, une nouvelle station d'épuration. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado du département, Bourneville ?
Non, il s'avère que les circonstances font que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on attend l'échangeur de Bourneville. Donc les choses tombent un peu dans le calendrier, un peu simultanément. Mais c'est pas non plus un hasard, puisque effectivement, le fait de déclencher les travaux de l'échangeur déclenche évidemment la mise en œuvre de la zone d'activité. Concernant la station d'épuration, c'est aussi quelque chose qui était planifié depuis un certain temps. J'ai réussi à obtenir les acquisitions foncières depuis le début de mon mandat de président de la commune de Quibeuf-sur-Seine. Donc c'est le hasard du calendrier qui veut que...
Sur le dossier économie, des financements et des subventions ont été dernièrement accordés à une dizaine d'entreprises du Grand Bourtereau via notamment la plateforme Initiative Heure, qui est un réseau associatif de financement et d'accompagnement de créateurs d'entreprises. Est-ce que ce n'est pas là en fait une initiative isolée qui cache un peu le désarroi du secteur économique ?
Non, je crois que toutes les initiatives sont bonnes à mettre en place. Les entreprises, en tout cas, elles sont satisfaites de l'accompagnement qu'on peut leur donner à travers ces aides-là. Bien sûr, il reste toujours beaucoup à faire. Nous sommes au travail pour essayer de faire toujours mieux, mais c'est important.
Le secteur de l'emploi, comment ça va chez vous ?
Plutôt un secteur qui est...
Les gens travaillent plus vers le Havre, vers Rouen ?
Oui, voilà. Donc un certain nombre d'habitants vont vers le Havre, vers Rouen, un petit peu vers la plateforme de Port-Jérôme, puisque pour une partie. Et puis sur le secteur qui est maintenant grand, puisque Roumois-Seine s'étend aussi sur la partie sud et donc vers les territoires de Louviers et de la Case en général.
D'ici 2 à 3 ans, le gouvernement attaquera au niveau de l'éducation la réforme du bac. Je pense que d'ici là, vous aurez également, vous, entamé la vôtre. parlant du bac de Quillebeuf. Est-ce que le péage est toujours d'actualité ?
Non, la question a été tranchée. Les départements de Seine-Maritime et de l'Eure ont trouvé une solution qui ne comprend pas de péage du bac. Et donc, ce bac sera remplacé et sa mise en service est prévue pour 2020 ou 2021.
Participation des entreprises du coin ?
Oui, mais surtout des collectivités, hein, puisque c'est des financements qui sont de la part du département, des départements de Seine-Maritime et de l'Eure. Et la côté de commune Roumois-Seine a voté en tout début d'année dernière une participation annuelle de 30 000 euros. Et effectivement, d'autres collectivités autour, d'autres communautés de communes sont sollicitées pour amener leur contribution.
Donc ça veut dire que c'est utilisé dans les deux sens ? On a l'impression en fait qu'il y a plus de gens qui ont du boulot, qui traversent justement via le bac pour aller vers la Seine-Maritime que de l'autre côté.
Oui, c'est utilisé dans les deux sens parce qu'il y a effectivement des flux importants qui sont liés au mouvement pendulaire lié au travail. Et donc un certain nombre d'habitants de l'Eure vont travailler en Seine-Maritime en empruntant ce bac. Et puis le week-end, c'est plutôt des habitants de Seine-Maritime qui empruntent le bac pour venir se promener sur nos territoires.
D'accord.
Touristique.
Aisiers, c'est une commune qui fait moins de 300 habitants, je crois.
Oui, c'est ça, 120 exactement.
Pourquoi un restaurant ? J'ai appris ça.
Pourquoi un restaurant ? Bah, écoutez, tout simplement parce que il y avait une maison qui était vacante depuis et abandonnée depuis une quarantaine d'années et qui était un beau patrimoine situé en plein cœur du village. La question nous était souvent posée, alors c'est dommage que cette maison soit réhabilitée. Et quand la succession est arrivée, nous avons sollicité la famille pour acquérir cette maison. À ce moment-là, on se posait la question de savoir ce qu'on allait en faire. On avait trois options qui se présentaient à nous, soit délocaliser notre mairie, mais pour un village de 120 habitants, on a des locaux déjà qui sont suffisants. Faire des logements, mais économiquement, on ne s'y retrouvait pas. Et puis, le dernier projet, c'est-à-dire réouvrir le restaurant qui avait fermé en 1983 à Aisiers, était un challenge intéressant, sachant que la commune est quand même un peu connue aussi grâce à ce restaurant. Donc nous avons commencé à chercher les subventions, les financements nécessaires pour ouvrir ce restaurant. On a fait les études préalables de faisabilité pour s'assurer que c'était viable, évidemment. Et comme il est situé, vous l'avez vu, sur la route des Chaumières, le long de l'axe Seine, donc du point de vue touristique, il n'y a pas de discussion. Et puis, comme vous le disiez, avec le nouvel Eldorado que nous aurons bientôt à Bourneville, il y aura forcément des retombées économiques liées au double échangeur, liées à la zone d'activité, liées à toutes les activités autour du collège et de la commune.
Je suis doté d'une inculture, en tout cas moi, sur le secteur de votre commune. Est-ce que Aisiers a possédé ou possédera un hôtel ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si le besoin est avéré, il y a déjà un certain nombre de chambres d'hôtes, de gîtes, dans Aisiers et autour. Il pourrait y avoir un hôtel.
Aisiers, est-ce que c'est une commune qui vit du tourisme 6 mois dans l'année et ensuite s'endort ou pas du tout ? C'est pas du tout c'est une image d'Épinal qu'il faut froisser et maintenant est déchirée.
Non, Aisiers vit du tourisme, mais en même temps, aujourd'hui, il n'en vivait pas suffisamment puisqu'il n'y avait pas de commerce pour en profiter. On avait des touristes qui venaient et on n'avait pas de retombées économiques. Là, avec l'ouverture de ce restaurant, ça permettra d'avoir des retombées économiques, d'amplifier le phénomène touristique et de faire en sorte que, justement, ça ne soit pas que sur la période estivale, mais bien plus réparti sur l'année.
Une vie associative, malgré tout, malgré le peu d'habitants ?
Oui, quelques associations, très faibles, mais...
C'est un village paisible où il fait bon vivre.
C'est ça.
Est-ce que ce village va être un tout petit peu secoué par les prochaines échéances électorales, notamment personnellement, vous ? Est-ce que vous avez envie de continuer ? Que ce soit au niveau de la mairie ou des engagements départementaux, voire régionaux, on ne sait jamais.
Bah, il est encore un peu tôt pour le dire, mais effectivement, j'ai plutôt envie de continuer. Il y a encore un certain nombre de projets à mener, notamment autour de la construction de l'intercommunalité. Nous avons 3 ans entre la construction, la naissance de Roumois-Seine et le renouvellement des élus locaux. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de mettre Roumois-Seine sur les rails de façon à ce que, à la prochaine, au prochain renouvellement des conseils municipaux, on puisse être un petit peu plus offensif.
On a l'impression que ça va un peu plus vite chez vous que chez votre cousine de Bernay-Terre de Normandie, où il y a eu un peu des querelles d'égo, etc. Il n'y a pas eu ce genre de choses chez vous ?
Écoutez, je ne sais pas si on va plus vite. En tout cas, on fait tout pour aller à un bon rythme. Nous avons eu peut-être moins de difficultés, c'est possible. En tout cas, ce n'est pas non plus un non-fleuve tranquille.
Et vous serez toujours également donc affilié à la famille centriste quand on se reverra aux prochaines élections ?
Difficile à dire. Oui. Les choses sont en pleine mutation aujourd'hui, mais...
La réflexion est en marche ou pas ?
Non, elle n'est pas
pour
en
le
marche.
Moment.
Pas en marche.
D'accord. Monsieur Gatinet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez faire quoi en sortant du studio ?
Eh ben écoutez, je vais rejoindre ma communauté de communes où j'ai une réunion avec l'ensemble de mes vice-présidents pour préparer le trimestre qui arrive.
D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver bien sûr cette hebdo politique en podcast, au son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Monsieur Gatinet, bonsoir.
Merci de votre invitation.
Au revoir.
À très bientôt.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.